Bonjour et bienvenue. Imaginez un peu une espérance de vie qui chute, mais alors qui chute brutalement, de plus de 75 ans à, tenez-vous bien, 40 ans, en seulement une année de conflit.
Oui, c'est un des chiffres absolument saisissants d'un document récent de l'ONU, le rapport ARC 60-CRP3. Bonjour.
C'est ce document qu'on va explorer aujourd'hui. Il vient de la Commission d'enquête internationale indépendante des Nations Unies.
Exactement. Et il se concentre sur la conduite d'Israël à Gaza entre octobre 2023 et juillet 2025, mais avec un angle très précis, celui de la Convention sur le génocide.
Donc, notre but aujourd'hui, c'est de regarder de près ce que dit ce rapport. Attention, on ne prend pas parti, hein. On essaie juste de comprendre comment cette commission analyse les faits par rapport au droit.
Et on précise bien, le rapport examine la responsabilité possible de l'État d'Israël, pas la responsabilité pénale de telle ou telle personne.
C'est important de le noter. Et sur quelle base travaille la commission OIB? Quelle est la force de leurs conclusions?
Alors, ils utilisent ce qu'on appelle la norme des motifs raisonnables de conclure. Ce n'est pas une condamnation définitive comme à la fin d'un procès, hein. C'est un seuil de preuve qui dit, voilà, il y a assez d'éléments sérieux et crédibles pour penser que quelque chose s'est passé et pour justifier, disons, une enquête plus poussée.
D'accord. C'est ce standard qu'ils appliquent pour voir si les actes matériels, l'actus reus, comme vous dites, les juristes...
C'est ça, l'actus reus.
Si ces actes correspondent à la définition du génocide, et s'il y avait l'intention spécifique, le fameux dolus specialis.
Tout à fait. C'est cette double analyse qu'on va suivre.
Parfait. Alors, avant d'entrer dans les faits eux-mêmes, un petit rappel rapide sur ce qu'est le génocide selon la Convention de 48. Juste les bases.
Bien sûr. En gros, c'est commettre certains actes, comme le meurtre ou l'atteinte grave à l'intégrité, avec une intention particulière, celle de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel.
Et ici, le groupe concerné?
Le groupe protégé, identifié, c'est le peuple palestinien. Ça suit la jurisprudence de la Cour internationale de justice. Et la Commission considère que les Palestiniens de Gaza sont une partie substantielle, donc une partie assez importante, de ce peuple pour que des actes visant leur destruction à Gaza puissent potentiellement être qualifiés de génocide.
D'accord. Et le rapport se concentre sur certains actes précis, pas tous ceux listés dans la Convention.
Oui, pour cette analyse, la Commission a examiné quatre types d'actes. Premièrement, le meurtre de membres du groupe. Deuxièmement, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale. Troisièmement, la soumission intentionnelle à des conditions d'existence qui doivent entraîner la destruction physique. Et quatrièmement, les mesures visant à entraver les naissances.
Et toujours avec cette fameuse intention spécifique, le dolus specialis, qui est vraiment la clé.
Exactement. C'est le point crucial et souvent le plus difficile à prouver. Ce n'est pas juste vouloir commettre l'acte, tuer ou blesser, c'est vouloir détruire le groupe en tant que groupe, viser son existence même. C'est ça qui différencie le génocide d'autres crimes horribles, comme les crimes de guerre ou contre l'humanité.
Une intention très spécifique donc. Et l'interdiction du génocide, c'est une norme fondamentale en droit international.
Absolument. C'est ce qu'on appelle le jus cogens, une norme impérative. Et ça crée des obligations pour tous les États, notamment celle de prévenir et punir le génocide.
Très clair. Bon, alors plongeons dans l'analyse des faits matériels, l'actus reus. Commençons par le premier acte, le meurtre. Vous parliez de chiffres effarants.
Oui, le rapport est très précis. 599 Palestiniens tués à Gaza, c'est le chiffre 31 juillet 2025. Et ce qui est frappant, c'est la proportion de femmes et d'enfants, 46% à cette date. Parfois même 60% pendant certaines phases intenses.
46%. Et les civils en général ?
Le rapport cite une estimation des renseignements israéliens de mai 2025 qui parlait de 83% de victimes civiles. C'est énorme. Et ça explique cette chute vertigineuse de l'espérance de vie dont vous parliez au début.
Au-delà des chiffres bruts, comment la Commission analyse-t-elle la manière dont ces morts sont survenues? Est-ce qu'il y a un schéma?
Oui, le rapport pointe l'usage massif, répété, d'armes explosives à très larges zones d'impact, y compris des bombes non guidées, parfois très puissantes, utilisées dans des zones urbaines qui sont parmi les plus denses du monde.
Des bombes non guidées en pleine ville?
C'est ce que dit le rapport. Il évoque même une stratégie de « dommage maximum », en citant un porte-parole militaire. L'intensité des bombardements est jugée disproportionnée par rapport à la taille et la densité de Gaza.
Et il y a des exemples concrets pour illustrer ça?
Ah oui, le rapport n'est pas juste abstrait. Il documente des frappes sur des immeubles résidentiels, parfois même dans des zones qu'Israël avait désignées comme sûres. Il détaille aussi les attaques répétées contre le système de santé.
Le système de santé.
Oui, près de 500 attaques recensées.
Qui ont tué directement plus de 700 personnes. Personnel médical, patients. Il décrit aussi le ciblage de civils sur les routes d'évacuation, ces routes qu'Israël avait ordonné d'emprunter. Et parfois même les secouristes qui venaient aider étaient visés.
Donc, même les zones dites sûres où les personnes protégées par le droit international, comme les médecins ou les blessés, n'auraient pas été épargnées.
C'est ce que le rapport suggère très fortement. Il y a des cas documentés de personnes tuées alors qu'elles brandissaient des drapeaux blancs. Des enfants ciblés par des snipers. C'est glaçant.
Vous parliez de secouristes? Oui, il y a l'exemple terrible de Tala Sultan en mars 2025. 15 secouristes de différentes organisations comme le Croissant Rouge palestinien, l'UNRWA, la Défense civile, ils étaient clairement identifiés avec leurs véhicules marqués, tués dans une attaque coordonnée. Et le rapport va plus loin, il mentionne des indices qui suggèrent qu'après coup, les forces israéliennes auraient tenté de dissimuler les preuves.
C'est très grave ça.
Oui, et il y a aussi ces scènes tragiques lors des distributions d'aide alimentaire, des centaines de morts. Une agence de l'ONU a même parlé de pièges mortels.
Et le siège lui-même, le blocus, il a tué aussi, indirectement.
Oui, absolument. Le manque de médicaments vitaux, de matériel médical, d'eau potable, ça a entraîné des décès, surtout chez les plus fragiles, femmes enceintes, malades chroniques. Pour la commission, il y a donc des motifs raisonnables de conclure que l'acte de meurtre, avec l'intention de tuer, est établi dans de très nombreux cas. Et ils ajoutent que l'ensemble de ces actions pourrait aussi constituer le crime contre l'humanité d'extermination.
Passons au deuxième acte examiné. L'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale. Là encore, l'échelle décrite
est difficilement imaginable, oui. Plus de 146 000 blessés, et le rapport insiste beaucoup sur le nombre effroyable d'amputations. Une ONG parle de la plus grande cohorte d'enfants amputés de l'histoire moderne.
Des enfants amputés.
Ouais. Et certaines opérations auraient été pratiquées sans anesthésie, faute de tout. C'est une atteinte physique gravissime, avec des séquelles à vie, évidemment.
Et les blessures psychologiques mentales, j'imagine qu'elles sont omniprésentes.
Absolument. Le rapport décrit des traumatismes profonds, généralisés. Liés aux bombardements incessants, bien sûr, la peur constante de la mort, mais aussi aux déplacements forcés, répétés. En moyenne, chaque habitant a dû fuir 6 fois, certains jusqu'à 19 fois.
19 fois.
Imaginez le chaos, l'angoisse permanente. Perdre sa maison, ses proches, ne plus avoir aucun repère. Chez les enfants, ça se manifeste par des cauchemars, des terreurs nocturnes, un mutisme, des symptômes de stress post-traumatique très sévères. Le rapport mentionne même des enfants qui expriment le désir de mourir, c'est dire le niveau de désespoir.
Et y a-t-il d'autres formes d'atteinte grave que le rapport met en lumière?
Non. Oui, le rapport décrit des conditions inhumaines, notamment dans un camp appelé Silsid Teiman, passage à tabac systématique, position de stress douloureuse pendant des heures, humiliation, usage de chiens, privation, menace de mort, y compris sur des enfants détenus.
C'est terrible. Et il y a aussi la question des violences sexuelles?
Oui, et c'est un point très lourd du rapport. La commission rapporte des témoignages qui indiquent un usage, je cite, « systématique de la violence sexuelle et basée sur le genre, contre les hommes comme contre les femmes ».
Systématique.
Oui, comme un outil pour humilier, intimider, punir. Dès l'arrestation, pendant les transferts, en détention, ça va des menaces de viol aux agressions sexuelles effectives, aux coups portés sur les parties génitales, à la nudité forcée et prolongée, aux insultes à caractère sexuel. Il y a même des photos dégradantes de détenus nus qui ont été prises et diffusées en ligne par des soldats.
L'horreur.
Oui. Et l'impact psychologique est dévastateur, surtout dans le contexte culturel palestinien où l'honneur est très important. Il y a aussi un autre point très spécifique à appeler, la destruction ciblée de la principale clinique de fécondation in vitro de Gaza.
Une clinique de FIV? Pourquoi?
C'est une question que pose le rapport. La destruction de cette clinique a entraîné la perte de milliers d'embryons congelés, anéantissant les espoirs de parentalité pour de nombreux couples. Et ça a causé une détresse psychologique immense, un deuil très particulier.
Donc, si on résume pour ce deuxième acte, atteinte physique massive, traumatismes mentaux généralisés, mauvais traitements, violences sexuelles systématiques, pour la commission, tout ça constitue bien l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale.
C'est leur conclusion, oui. Ils estiment qu'il y a des motifs raisonnables de penser que ces atteintes étaient intentionnelles, systématiques et généralisées.
Venons-en au troisième acte. La soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique. Ça fait immédiatement penser à l'annonce du siège complet au tout début du conflit.
Tout à fait. Le rapport revient sur cette déclaration du ministre israélien de la Défense, Yoav Galant, le 9 octobre 2023. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de nourriture, pas de carburant, tout est fermé. Pour la commission, ce n'était pas que des mots, ça a été suivi d'actes concrets pour rendre la vie à Gaza tout simplement impossible.
Et quels sont ces actes concrets selon le rapport ?
C'est une combinaison de plusieurs choses. D'abord, la destruction massive des infrastructures absolument essentielles à la survie. Plus de 70% des logements seraient endommagés ou détruits. Les terres agricoles, les serres, les boulangeries, les bateaux de pêche, tout ce qui permet de se nourrir localement. Les systèmes d'eau et d'assainissement, vitaux pour l'hygiène et la santé.
Et pas seulement les infrastructures de base.
Non, le rapport souligne aussi la destruction du patrimoine culturel et religieux, plus de 100 mosquées, des églises anciennes, des sites archéologiques, et l'anéantissement quasi total du système éducatif. Plus de 70% des écoles touchées, toutes les universités de Gaza endommagées ou démolies. C'est l'avenir même du peuple qui est visé là.
Le système de santé aussi a été particulièrement ciblé, on l'a déjà un peu évoqué.
Oui, et c'est un point central pour cet acte précis. Le rapport parle d'attaques répétées, délibérées contre les hôpitaux Shifa, Nasser, Al-Aouda, contre les ambulances, le personnel soignant. Le blocus a aussi empêché l'entrée de matériel médical, de médicaments, de carburant pour les générateurs. Des services vitaux comme les maternités, les unités de dialyse ou de cancérologie ont dû fermer.
Et à ça s'ajoutent les déplacements forcés massifs.
Exactement. Plus de 1,9 million de personnes déplacées, soit près de 90% de la population, entassées dans les abris surpeuplés, souvent de simples tentes, sans accès à l'eau potable, sans sanitaire correct, sans hygiène. Ce qui a favorisé la propagation rapide de maladies infectieuses, diarrhée, hépatite A, infections cutanées.
Et le blocus lui-même qui a empêché l'aide d'entrer.
C'est l'autre volet crucial. Le rapport décrit un siège implacable. Coupure d'électricité, d'eau, de carburant venant d'Israël et une restriction drastique de l'aide humanitaire. Pendant certaines périodes, notamment entre mars et mai 2025, c'était un blocage quasi total. Et même quand l'aide passait, c'était en quantité très insuffisante.
Le rapport mentionne même un calcul antérieur des besoins caloriques.
Oui, il fait référence à un document israélien plus ancien appelé Redline qui aurait calculé le nombre minimum de calories nécessaires pour éviter la malnutrition à Gaza, mais en maintenant la population dans un état de dépendance et de privation. Pour la commission, la manière dont le siège a été mené après octobre 2023 va bien au-delà de ça et visait à créer des conditions intenables.
Avec pour conséquence directe la famine.
Oui, la famine a été officiellement déclarée dans certaines zones ou jugée imminente dans d'autres, selon les classifications internationales IPC. Et ce, malgré les avertissements répétés de l'ONU, des ONG et même les ordonnances de la Cour internationale de justice qui demandaient à Israël de laisser passer l'aide.
Les conséquences pour les femmes et les enfants ont dû être particulièrement terribles.
Oui, le rapport le souligne explicitement. Des conditions d'accouchement devenues extrêmement dangereuses. Une malnutrition aiguë chez les femmes enceintes et allaitantes, entraînant une hausse des fausses couches, des naissances prématurées, des risques accrus pour la mère et l'enfant. Chez les enfants, la malnutrition aiguë sévère a causé des décès par inanition et pour les survivants, elle risque de laisser des retards de croissance et de développement cognitif irréversibles.
Et la destruction de l'éducation s'est vue aussi comme contribuant à ces conditions de destruction ?
Oui, la commission l'analyse comme un moyen de détruire les fondations de la vie future du groupe à Gaza.
Donc pour résumer, cet acte destruction massive, siège, déplacement forcé, entrave à l'aide humanitaire conduisant à la famine, pour la commission, tout ça a été fait délibérément.
C'est leur conclusion. Ils estiment que ces conditions d'existence ont été infligées intentionnellement, en pleine connaissance des conséquences dévastatrices, et qu'elles étaient calculées pour entraîner la destruction physique au moins partielle des Palestiniens de Gaza. Ils qualifient aussi l'usage de la famine comme méthode de guerre, de crime de guerre.
Reste le quatrième et dernier acte analysé par la commission dans ce rapport, les mesures visant à entraver les naissances. C'est peut-être moins connu. Sur quoi se base la commission ici ?
Principalement, comme on l'a effleuré tout à l'heure, sur la destruction de la clinique de FIV Al-Basma en décembre 2023. C'était le centre principal pour la procréation médicalement assistée à Gaza.
Et comment interprète-t-il cet événement ?
Selon le rapport, un tir de char israélien a spécifiquement touché le laboratoire d'embryologie, là où étaient conservés les embryons et les gamètes dans l'azote liquide. Environ 5000 embryons, ovules et échantillons de sperme ont été détruits.
5000, c'est énorme. Et la commission y voit une intention d'entraver les naissances ?
Elle considère qu'il y a des motifs raisonnables de le penser. Pourquoi ? Parce que le ciblage semble très spécifique, visant le cœur même de la clinique. Le rapport indique qu'il n'y avait pas de menace militaire crédible émanant de cet endroit précis qui justifierait une telle destruction. Et la perte de ces embryons, c'est la perte de l'espoir d'avoir des enfants pour des centaines de familles. C'est un impact direct sur la capacité du groupe à se reproduire et à perdurer.
Donc ils interprètent cet acte précis comme une mesure visant à empêcher la continuité du groupe palestinien à Gaza.
C'est comme ça qu'ils l'analysent, oui.
Bien. On a donc parcouru les quatre actes matériels. Le meurtre, l'atteinte grave, les conditions d'existence, l'entrave aux naissances, que la commission estime établie sur la base de motifs raisonnables. Mais on l'a dit, le cœur du crime de génocide, c'est cette intention spécifique de détruire le groupe, le dolus specialis. Comment la commission s'y prend-elle pour évaluer cette intention ? C'est toujours l'élément le plus complexe.
Oui, c'est le défi majeur dans toute affaire de génocide. La commission rappelle qu'il y a deux façons de prouver cette intention. Soit on a des preuves directes, des ordres explicites, des déclarations claires, ce qui est rare. Soit, et c'est le cas le plus fréquent, on doit l'inférer.
L'inférer, c'est-à-dire ?
On doit la déduire d'un ensemble d'indices concordants de ce qu'on appelle un pattern of conduct, un modèle de comportement. Si tous les actes commis mis ensemble, pointe de manière cohérente vers cette intention de détruire le groupe, et si c'est la seule conclusion raisonnable qui puisse expliquer l'ensemble de ces actes, alors on peut conclure à l'existence du dolus specialis.
D'accord. Alors est-ce que la commission a trouvé des preuves directes, des déclarations par exemple ?
Oui, le rapport en cite un certain nombre, surtout au début du conflit, en octobre 2023. Il y a d'abord un langage déshumanisant utilisé par de hauts responsables, par exemple le ministre de la Défense, Galant, parlant d'animaux humains.
Oui, ça avait marqué les esprits.
Il y a aussi des appels assez clairs à la vengeance, à la destruction, le premier ministre Netanyahou parlant de vengeance puissante, de transformer Gaza en lune. Il a aussi invoqué la figure biblique d'Amalek.
Amalek. Qu'est-ce que ça signifie ?
Dans la tradition biblique, Amalek est un ennemi juré d'Israël contre lequel Dieu ordonne une guerre d'extermination totale. L'invocation de cette figure est souvent interprétée, dans ce contexte, comme un appel à ne faire aucun quartier, voire à anéantir l'ennemi. Galant aussi a parlé d'éliminer tout.
Il y a aussi des propos qui semblaient viser toute la population.
Oui, le rapport pointe la rhétorique de la responsabilité collective. Par exemple, le président israélien Herzog qui a déclaré que « toute une nation est responsable des attaques du 7 octobre ». Ça tend à effacer la distinction entre civils et combattants.
Et au niveau militaire ?
Des commandants sur le terrain ont aussi tenu des propos très durs, repris dans le rapport. Un commandant de brigade parlant de « pulvériser », d'anéantir l'ennemi. Un ancien chef de l'armée de l'air évoquant la vengeance et la nécessité de laisser une terre en jachère. Le rapport mentionne même des vidéos de soldats chantant des slogans comme « brûler leur village ».
Et même après coup, il y aurait eu des déclarations allant dans ce sens-là. Hein.
Oui, le rapport cite un ancien chef du renseignement militaire qui aurait dit bien plus tard qu'un bilan de 50 000 morts palestiniens était nécessaire et qu'il fallait une Nakba à Gaza. La Nakba, c'est la catastrophe en arabe, le terme utilisé pour décrire l'exode forcé des Palestiniens en 1948.
Donc pour la commission, ces déclarations sont importantes ?
Oui, elle estime que ces propos venant de personnes en position de pouvoir et d'influence ne sont pas juste des mots en l'air. Ils expriment une intention de détruire, ils ont créé un climat de haine et de déshumanisation, et surtout, ils semblent avoir été compris et appliqués sur le terrain par les soldats comme une autorisation, voire un encouragement à commettre des actes destructeurs à grande échelle.
D'accord pour les preuves directes. Mais vous disiez que souvent, l'intention doit être inférée du « pattern of conduct », de l'ensemble des actes. Comment la commission procède-t-elle ici ? Quels sont les indices qu'elle met bout à bout ?
C'est là que toute l'analyse des actes matériels prend son sens pour prouver l'intention. La commission récapitule et met en cohérence tous les éléments qu'on a vus ci-là. D'abord, l'échelle et la nature des meurtres et des atteintes graves, c'est sans précédent à Gaza. Et ça touche massivement les civils, y compris les groupes les plus protégés. Femmes, enfants, personnel médical, humanitaire. D'abord, l'échelle et la nature des meurtres et des atteintes graves, c'est sans précédent à Gaza. Et ça touche massivement les civils, y compris les groupes les plus protégés. Ensuite, le ciblage systématique des infrastructures essentielles à la survie, eau, nourriture, logement, santé, mais aussi de tout ce qui fait l'identité et la culture palestinienne, écoles, universités, sites historiques religieux. C'est vu comme une tentative d'effacer le groupe. Et ça touche massivement les civils, y compris les groupes les plus protégés. Il y a aussi l'usage d'une force jugée largement disproportionnée, avec des méthodes comme l'utilisation de bombes très puissantes dans des zones très denses. D'abord, l'échelle et la nature des meurtres et des atteintes graves. C'est sans précédent à Gaza. Et ça touche massivement les civils, y compris les groupes les plus protégés. La création délibérée et maintenue des conditions de vie inhumaines par le siège et la famine organisée, en ignorant sciemment toutes les alertes et les ordonnances de la CIJ. D'abord, l'échelle et la nature des meurtres et des atteintes graves. C'est sans précédent à Gaza. Et ça touche massivement les civils, y compris les groupes les plus protégés. Le caractère systématique et particulièrement dégradant des violences sexuelles et basées sur le genre, visant à humilier et briser l'identité du groupe. D'abord, l'échelle et la nature des meurtres et des atteintes graves. C'est sans précédent à Gaza. Et ça touche massivement les civils, y compris les groupes les plus protégés, le ciblage spécifique des enfants tués, mutilés, affamés, privés d'éducation, qui représentent l'avenir du groupe. D'abord, l'échelle et la nature des meurtres et des atteintes graves. C'est sans précédent à Gaza. Et ça touche massivement les civils, y compris les groupes les plus protégés, l'absence quasi totale de compte à rendre pour tous ces actes et même des indices de dissimulation, comme à Tal al-Sultan. D'abord, l'échelle et la nature des meurtres et des atteintes graves. C'est sans précédent à Gaza. Et ça touche massivement les civils, y compris les groupes les plus protégés. Et tout ça, la Commission le replace dans le contexte des déclarations incendiaires qu'on vient d'évoquer, et aussi dans le contexte plus large de l'occupation prolongée et de ce que d'autres instances ont qualifié d'apartheid.
Donc, la Commission regarde ce tableau d'ensemble et se dit, est-ce que tout ça peut s'expliquer uniquement par la nécessité militaire de combattre le Hamas ?
C'est exactement ça, le cœur de leur raisonnement sur l'intention. Il conclut qu'il y a des motifs raisonnables de penser que ce faisceau d'indices convergents, la nature des actes, leur échelle massive, leur caractère systématique, les cibles choisies, civiles, infrastructures civiles vitales, culture, enfants, les méthodes employées, le discours qui les accompagne, tout cela dépasse largement ce qui pourrait être justifié par des objectifs militaires légitimes, même dans une guerre difficile.
Et donc la seule conclusion raisonnable...
La seule conclusion raisonnable qui puisse expliquer l'ensemble de ces actions, à ce stade de leur enquête, c'est qu'elles ont été commises avec l'intention spécifique de détruire les Palestiniens de Gaza en tant que partie du groupe national palestinien.
C'est une conclusion très lourde pour résumer donc notre exploration de ce document ARC06-CRP.3, je l'ai dit. La commission d'enquête de l'ONU conclut qu'il y a des motifs raisonnables de considérer que 4 actes interdits par la Convention sur le génocide, meurtre, atteinte grave, conditions d'existence, entrave aux naissances, ont été commis par Israël à Gaza entre octobre 2023 et juillet 2025.
Oui, et point essentiel, elle conclut aussi qu'il y a des motifs raisonnables de croire que l'intention spécifique de détruire ce groupe, le fameux dolus specialis, était présente. Elle se base pour ça à la fois sur des déclarations directes de responsables israéliens et sur l'analyse de ce faisceau d'indices concordants qui se dégage des actions menées sur le terrain.
Il faut vraiment insister, hein. Notre discussion aujourd'hui s'est basée uniquement sur les conclusions de ce rapport de la commission d'enquête de l'ONU. Ce n'est qu'une pièce dans un dossier juridique et politique extrêmement complexe et douloureux. L'affaire principale, celle portée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, est toujours en cours. C'est la CIG qui, à terme, rendra une décision juridiquement contraignante sur la question de savoir si un génocide a été commis ou non.
Tout à fait. Ce rapport est une contribution importante au dossier, mais ce n'est pas le jugement final. Et d'ailleurs, pour ouvrir un peu la réflexion à la fin de notre échange, le rapport mentionne aussi, même si on n'a pas eu le temps d'entrer dans les détails, les obligations qui pèsent sur les autres États, les États tiers, en vertu de la Convention sur le génocide.
Ah oui ? Lesquels, par exemple ?
Notamment l'obligation de prévention. La Convention dit que les États doivent agir pour prévenir le génocide. Et cette obligation s'activerait dès qu'un État a connaissance ou devrait avoir connaissance d'un risque sérieux qu'un génocide soit commis.
Un risque sérieux. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question, une question ouverte pour ceux qui nous écoutent. Si l'on prend au sérieux les constats très détaillés de cette commission d'enquête et son évaluation d'un risque sérieux, voire plus selon leurs conclusions, quelles implications concrètes ça pourrait avoir pour la communauté internationale, pour les autres États, au-delà des condamnations verbales ou des prises de notes diplomatiques, qu'implique réellement cette obligation de prévention face à une situation comme celle décrite dans ce rapport?
C'est une question fondamentale, en effet, et très complexe.
Une question qui mérite sans doute réflexion. Merci beaucoup d'avoir éclairé ce rapport dense et difficile.
Merci à vous.